Session sur la pression humaine par le Père Marie-Dominique Philippe, le 12 juillet 2002 à Saint-Judard. Première conférence.
La distinction au point de vue philosophique qu'on fait entre l'âme et le corps est une distinction capitale. Et l'autonomie, c'est grâce à notre âme spirituelle. Le fondement de l'autonomie, c'est notre âme spirituelle, qui est notre substance, qui est ce qui nous donne une possibilité d'avoir une certaine autonomie. Si vous supprimez la distinction de l'âme et du corps, vous ne pouvez plus comprendre ce qu'est la personne humaine. De sorte que ça devient un problème extrêmement important, parce que la distinction de l'âme et du corps, aujourd'hui, elle est souvent rejetée. Je me souviens très bien, quand j'étais étudiant, je voyais des étudiants de Sorbonne qui venaient et posaient toujours cette question-là. Est-ce que vraiment on a une âme? Est-ce qu'on peut philosophiquement parler de l'âme? De Fribourg, on avait été invité après la guerre à Athènes, par l'université d'Athènes. J'avais hésité d'être en dominicain et le patriarche m'avait dit « Mettez-vous en dominicain ». Et c'est vrai que tout de suite les conversations ont été tout autres avec les professeurs. Et ces professeurs de philosophie à Athènes m'ont posé la question, peut-on philosophiquement parler de l'âme? Ou est-ce que l'âme, c'est une question de foi chrétienne? Et je crois qu'en effet, le grand problème que nous aurons à avoir au point de vue philosophique, dès maintenant et surtout dès demain, ce sera de pouvoir affirmer que nous avons une âme. Une âme, c'est-à-dire qu'il y a en nous, dans notre corps, quelque chose qui nous distingue radicalement de l'animal et qui fait que nous avons une certaine autonomie. Notre autonomie repose sur notre âme. Si nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas d'autonomie. Quelle est l'autonomie du cheval, de la vache? C'est d'être en groupe. C'est vrai. Une vache toute seule est toujours très triste. Et elle aime de brouter en voyant que la voisine fait la même chose. Pour se voir les confidences de la vache. Et on est en train d'abrutir l'humanité. Puisque, je parle pour la France, on est en train de vouloir donner comme première éducation les mathématiques et de ne plus donner que cela. Alors, les mathématiques ne se posent pas la question de l'âme, non. C'est la question de l'être mathématique. Mais l'être mathématique n'est pas une âme, puisque l'être mathématique implique nécessairement le divisible. n'est-ce pas, quantité. Je crois que on doit regarder bien en face l'Europe qui veut se construire indépendamment de la distinction de l'âme et du corps. Nous sommes des animaux très évolués, puisqu'on parle. Et c'est grâce à nos ancêtres que nous avons tel langage et tel autre langage. Et on va vraiment vers cette vision de l'agrégat, de la communauté qui est le tout. Et le tout est évidemment beaucoup plus que l'individu. Il n'y a plus la personne, c'est l'individu. Les individus existent chez l'animal, bien sûr. Il y a une grande différence entre les différents individus. On le voit au marché. Quand on vient dans des marchés anciens, on voit les vaches qu'on vend, les veaux qu'on vend, les chevaux. C'est très amusant à voir. Parce qu'on regarde la qualité de l'individu, pas la personne. Notre personne est fondée radicalement sur notre âme. Oui. Puisque je regarde la personne au terme de la philosophie, à la différence de la psychologie qui regarde la personne au point de départ de la psychologie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Au terme de ma connaissance philosophique, le sommet de la réalité que je connais, c'est la personne humaine. Si ce n'est pas le sommet de votre philosophie, c'est pas la peine de faire de la philosophie. Moi, je fais de la philosophie pour connaître l'homme, la femme, pour connaître le couple, pour connaître autant que l'intelligence est capable d'atteindre Dieu. Mais si, dès le point de départ, on refuse la connaissance de l'âme, la philosophie grecque dont nous dépendons, de retrouver les mêmes problèmes en philosophie de l'Inde. En philosophie religieuse, on retrouve toujours le même problème. Que l'âme fonde le point de vue religieux, c'est sûr, mais pas le point de vue de la foi. Le point de vue religieux. Le point de vue religieux est un point de vue humain que le philosophe doit respecter. Ne pas vouloir regarder le point de vue religieux, c'est anti-philosophique. Le point de vue religieux, c'est la découverte de l'âme. La découverte de l'âme, qu'il y a en moi quelque chose qui est au-delà du corps, qui me distingue par le phénomène de l'animal. Ça, c'est le problème philosophique capital, foncier, et qui devient aujourd'hui le premier problème philosophique. La philosophie grecque a mis des années, pour arriver à discerner ce qu'est la psyché, l'âme. Et les grands philosophes de l'âme, c'est Platon et Aristote. C'est le centre de leur philosophie. C'est Platon et Aristote. Platon, lui, décrit admirablement et décrit comment l'âme nous construit différemment selon les développements différents de l'âme. Chacun des dialogues de Platon, c'est un édifice pour l'âme. et Aristote, venant après Platon, mais voulant dépasser Platon, son grand problème a été de montrer que l'âme est spirituelle, est immatérielle, qu'il y a en nous un principe d'être, la substance, l'ousia, la substance qui est l'âme, et que nous avons au plus intime de nous-mêmes ce principe de vie qui est l'âme, et qui demande de progresser. L'enfant a une âme, le grand problème philosophique auquel il n'y a pas de réponse, quand l'âme est-elle créée ? C'est même très très intéressant, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir à quel moment. Vous pouvez regarder très attentivement le développement de l'embryon. C'est très intéressant de faire ça. À quel moment l'âme est créée ? Alors aujourd'hui, dans une position apologétique et non pas philosophique, on dit l'âme est créée tout de suite. Le vieil Aristote dit non, non. Il y a d'abord la formation de l'embryon pendant un certain temps. Quand l'âme est-elle créée ? Et c'est le propre de Dieu d'intervenir sans faire de bruit. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Tous les grands de ce monde interviennent en faisant beaucoup de bruit. Et nous en sommes comme ça. Quand nous intervenons en faisant du bruit. Dans toutes les communautés, c'est comme ça. Il n'y a que Dieu. C'est le propre de Dieu d'intervenir sans faire de bruit. Le mystère du Verbe incarné du Christ. Il est intervenu sans faire de bruit, puisqu'il est né dans une étable. C'est quand même affolant. Je me souviens d'avoir emmené une fois, une fête de Noël, un asiatique confusionniste. À la fin de la cérémonie, il m'a dit « Comme c'est triste !» Elle lui dit « Pourquoi ?»« Comme c'est triste !» Dieu intervient et personne ne s'en aperçoit. Il est venu au milieu de nous sans crier gare. Alors on disait en riant à Fribourg « Jamais Dieu n'aurait pu naître à Fribourg puisqu'on aurait dû arrêter les tramways. » Il est intervenu sans faire de bruit. Et c'est vrai, Dieu intervient dans notre monde. Il vient se donner à nous comme un petit enfant et tout est caché. Et Saint Joseph a comme rôle de cacher la chose. Et notre corps a comme fonction de cacher notre âme. Notre corps cache notre âme. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est la physionomie, c'est les yeux, c'est la personne, oui. Mais notre âme, c'est ça qui est intéressant quand même. Si on a une âme, c'est bien plus intéressant de connaître votre âme que de connaître votre corps. Parce qu'on peut vraiment avoir un dialogue. Tandis qu'avec notre corps, c'est un obstacle. Oui, j'ai quelquefois une union très grande, mais quand même, avec l'âme. Comme nous avons de la peine, et ça je crois que c'est un des buts de la philosophie, comme nous avons de la peine à découvrir ce qui est essentiel, nous restons attachés aux choses accidentelles. on est pris par tout ce qui se manifeste, tout ce qui se voit, c'est accidentel. Les modes, c'est accidentel quand même. Les chapeaux, c'est accidentel. Les pipes, c'est accidentel. On s'intéresse à ça. Et ce qui est essentiel, ah, c'est notre âme. Si nous avons une âme, l'essentiel, c'est notre âme. Ça, c'est sûr. Et la philosophie, si elle a un intérêt, c'est de découvrir notre âme. Alors que toutes les sciences étudient le corps, étudient la vie végétative, la vie passionnelle, la psychologie, mais n'étudient pas l'âme. Un psychologue ne détruit pas l'âme, parce qu'il détruit, il étudie ce qu'on a conscience. La conscience n'est pas l'âme. J'ai conscience d'être bien assis. Hein, vous avez conscience d'être bien assis. Et puis, au bout d'une heure, vous avez conscience d'être fatigué d'être assis. On a conscience de l'état de notre corps. Il fait très chaud. Ah, un peu d'air. Tout de suite, on est bien, un peu d'air. Il faudra un grand ventilateur, sans bruit, qui puisse nous donner un petit peu d'air. Dans une salle, on est tous en tassé dedans. Quelle drôle d'idée, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est notre âme, quand même. C'est surtout plus intéressant. Le philosophe, la première chose que le philosophe doit faire en étudiant l'homme, c'est de voir que l'homme a une âme. Et ces philosophes d'Athènes me demandaient, est-ce que, en tant que philosophe, nous pouvons affirmer l'âme ? Alors je dis, vous, qui avez comme ancêtres Platon et Aristote, vous demandez ça ? Ah, mais on ne connaît plus Platon, on ne connaît plus Aristote. Donc, 400 ans avant Jésus-Christ, leur grand problème philosophique, c'était l'âme. Et nous, chrétiens, notre grand problème philosophique n'est plus ça, parce qu'on ne la voit pas. Et c'est vrai, vous n'avez jamais vu votre âme. Sauf dans des rêves. Alors, il y a eu votre âme qui pouvait voyager libre de votre corps. Et c'est imaginatif. Notre imagination peut manifester votre âme. Mais l'âme, c'est pas l'imagination. L'âme, c'est quelque chose de plus profond. L'âme, c'est ce qui habite votre corps. Oh. Votre corps, quand même, il vous obéit. Vous pouvez montrer, faire marcher votre bras, faire marcher votre pied. Vous pouvez réfléchir. Oh. Le philosophe qui vient vous faire réfléchir, penser. Vous avez en vous une âme. C'est vrai, le premier exercice philosophique doit être d'arriver à distinguer l'âme du corps. J'ai enseigné longuement à Fribourg, en Suisse, et j'avais de très bons contacts avec le professeur de philosophie de Lausanne. Je l'aimais beaucoup, protestant. Son épouse était barthienne, donc farouchement protestante. Alors lui me disait mon père, et elle me disait monsieur. Ça faisait un dialogue assez amusant. Elle s'en apercevait forcément. Lui avait fait des études en France, et il était un protestant. Il ne savait pas trop pourquoi. parce qu'il était né vaudois, alors il était protestant. Tandis qu'elle, Barthienne, savait très bien ce qu'elle était. Alors, il m'avait dit, tous mes étudiants de philosophie, à Lausanne, il en avait 25-30, pas plus, tous mes étudiants de philosophie ne croient plus en l'âme. L'âme pour eux, ça ne suffit rien du tout. C'est un point de vue religieux. C'est pas un point de vue philosophique. C'est le corps. C'est un animal supérieur. Et il dit ça, c'était il y a 30 ans qu'il me disait ça. Hein, à peu près. Et ces choses-là, c'est difficile à redresser. Alors, il m'avait dit, je ne peux pas vous inviter à l'université parce que ce ne serait pas admis qu'un dominicain enseigne à l'université de Lausanne, protestante. Mais je peux inviter tous mes étudiants chez moi. Là, je suis patron. Alors, j'ai dit ça, très bien. Est-ce que vous accepteriez de leur parler, de passer une soirée avec tous mes étudiants? Alors, j'ai dit très, très bien. C'est même beaucoup mieux. Alors, on avait invité tous ces étudiants de philosophie étaient là. Et je ne les connaissais pas. Mais à les regarder, on voit vite. Hein. On est habitué. Et j'avais en face de moi une étudiante qui me paraissait particulièrement rusée. Et j'ai su après que c'était la fille d'un pasteur. Donc elle devait avoir une intelligence un peu éveillée. Alors, je lui ai dit, quels sont ceux parmi vous qui croient qu'il y a en nous une distinction de l'âme et du corps? Et que philosophiquement, on peut affirmer la distinction de l'âme et du corps. Et personne n'a levé la main. Alors, faisons l'inverse. Quels sont ceux parmi vous pour qui l'âme n'existe pas? Toutes levent la main. Alors, je m'adresse à l'étudiant qui est en face de moi, qui me paraissait parfaitement, particulièrement intelligente. Je lui dis, est-ce que pour vous, il y a une distinction entre faire de la philosophie, maintenant, nous réfléchissons, nous avons un problème très important, est-ce que je peux découvrir mon âme, philosophiquement, uniquement en faisant appel à ma réflexion, indépendamment de ma foi. Si je suis chrétien, si je suis protestant, je crois en la parole de Dieu. Je crois en effet qu'il y a une âme qu'on a baptisée. C'est pas le corps qu'on a baptisé, c'est l'âme qu'on a baptisée. Et les protestants comprennent ce que c'est que le baptême. Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre dormir et essayer de faire des philosophies? Elle n'a pas voulu me répondre. Elle n'a pas voulu me répondre. Elle a dit, bon, alors on fait un cours de philosophie en dormant. C'est pas si mal. C'est plus reposant, évidemment, de faire un philosophie en dormant. Je vais taquiner un petit peu. Elle n'a pas voulu me répondre. Je lui dis, mais quoi? C'est quand même une expérience qu'on fait tous les jours, ça. Tous les jours, vous faites cette expérience. Et vous faites de la philosophie sans réfléchir sur cette expérience. Alors quoi? La philosophie doit vous éveiller un petit peu. Quand vous êtes éveillé, c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que vous faites maintenant, là? Vous écoutez un cours de philosophie. Hein? Qu'est-ce qui écoute ce cours de philosophie? En vous, on mettrait une vache à la place. Vous croyez qu'elle écouterait le cours de philosophie ? Alors, elle était de plus en plus gênée. De moins en moins, elle voulait répondre. La différence entre dormir et être réveillé. Mais je dis, mais c'est quand même très élémentaire, ça. C'est quand même très élémentaire. Et c'est très important. Mais ce soir, vous n'allez plus savoir dormir. Parce que vous allez réfléchir sur la distinction d'être réveillé et dormir. Puis alors, on a discuté longuement jusque minuit. Commencé à 8h jusqu'à minuit. Parce que ça fusait de droite et de gauche tout le temps. Parce que ça pouvait, c'était un sujet qui les intéressait. Ils affirmaient qu'il n'y avait pas d'âme et que tous avaient un corps, mais pas d'âme. Et quand ils y réfléchissaient, ben, ils commençaient à se dire, tiens, c'est vrai, on n'est pas à l'écurie. On réfléchit. Alors est arrivé à minuit, l'épouse Bartienne de mon professeur est arrivée nous apporter une tasse de thé. Puis, évidemment, toute la discussion philosophique a descendu de 2 crans. Et chacun, on a vu sa tasse de thé. Et pendant ce temps-là, on prenait ce thé qui était très bon. Alors j'ai dit, mais vous voyez, c'est curieux, la discussion philosophique s'est arrêtée. Et on est tous d'accord pour prendre du thé. On n'était pas d'accord philosophiquement, mais on est tous d'accord pour prendre du thé. C'est curieux ça. Hein, prendre du thé, c'est votre intelligence qui prend du thé. Si vous avez soif, prenez du thé. Du très bon thé. Alors je vais retourner vers la même étudiante. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Prendre du thé, boire du thé, goûter du thé, et puis réfléchir, est-ce qu'on a une âme? Est-ce que Platon est un imbécile d'avoir parlé de l'âme? Est-ce qu'Aristote n'a rien pigé parler de l'âme? Au contraire, dans notre monde d'aujourd'hui, on est tous des abrutis. Et on ne réfléchit plus du tout à notre âme. Sauf à l'église, on n'a qu'une âme qu'il faut sauver. Le vieux cantique. Alors, mais philosophiquement, c'est le problème, ça. Comment voulez-vous faire de la philosophie sans distinguer en vous l'âme du corps? Pour Aristote, c'est le grand problème de tout un livre qu'il appelle le De Anima, le Peripsuchus, traité de l'âme. Le Peripsuchus, parce que si on traite du vivant, le vivant, il a une âme. Il a une âme de vie végétative, de vie sensible, de vie intellectuelle, parce que je vois en effet que j'ai des opérations différentes. Boire du thé, répondre à une question en disant non, il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps. Et puis réfléchir. Alors, là encore, c'était le silence. Vous voyez, au fond, on ne veut pas regarder l'expérience. Parce qu'on a des idées a priori. Ça fait bien, dans le monde d'aujourd'hui, de nier la distinction de l'âme et du corps. On ne sait pas réfléchir sur sa propre vie. Sa propre vie, constamment. J'ai un bras fatigué, c'est mon bras, mais ma tête marche. Je vieillis. Quant à mon corps, est-ce que mon intelligence vieillit? Est-ce que mon âme vieillit? C'est intéressant, ça. Est-ce que que je peux dire que j'ai une vieille âme. Je peux dire que j'ai un vieux corps. Mais je ne peux pas dire que j'ai une vieille âme. L'âme, au contraire, je ne dis pas qu'elle sera jeunie tout le temps, mais notre âme est libre du temps, de l'âge. Elle dépend du corps dans ses activités, c'est évident. Quand je vieillis, je suis plus dépendant de mon corps. Mon corps prend une plus grande importance. Quand je suis en pleine force l'âge, 35 ans, 45 ans, je fais ce que je veux. Mon âme est libre. Mon corps, je le domine. J'en fais ce que je veux. Je vois bien qu'il y a en moi deux choses différentes, des opérations qui sont dépendantes de mon corps. Donner la main à quelqu'un, c'est dépendant de mon corps, ça. C'est sûr. Quand je dis à quelqu'un, oh, tu as une belle âme, je ne la vois pas, son âme. La mère, en regardant son petit gosse, dira, tu mens. Je vois que tu mens. Mais on sait bien qu'elle dit ça pour l'intimider, pour qu'il avoue sa faute. Mais elle ne le sait pas. Vos intentions, je ne les connais pas. Mais je les connais si vous me le dites. Mais alors vous parlez. Mais normalement, avant de parler, vous pensez. Et en parlant, vous exprimez votre pensée. Ah, le simple langage. Tous les jours, vous vous servez du langage. Et dans le langage, vous avez quelque chose qui dépend de votre corps et quelque chose qui dépend de votre âme. Vous voyez, vous arrivez à discerner. Et ça, c'est le problème philosophique fondamental, premier. Et de plus en plus, ça deviendra le problème philosophique fondamental. Arriver à discerner, non pas notre conscience, mais qu'il y a en nous un principe de vie. Un principe de vie. Je ne sais pas d'où il vient, je ne peux pas préciser tout de suite, mais un principe de vie. Il y a en moi un principe d'initiation inventif qui me permet de poser des actions multiples et diverses, qui me permet de communiquer aux autres. Et puis en moi, il y a mon corps. Ça, mon corps, je n'y crois, je n'ai pas besoin d'y croire, je le touche. C'est bien qu'il y a un corps. C'est mon corps. Il y a le corps aussi du voisin. Mais ce n'est pas le mien. Et quand nous communiquons, c'est notre âme qui communique. Quand nous parlons, l'autre reçoit cette parole. Et nous y adhérons. Le premier problème philosophique aujourd'hui, très important, c'est de comprendre qu'en chacun d'entre nous, il y a un principe radical de vie qui est notre âme. Et au point de vue philosophique, je dirais que notre âme, c'est notre substance. C'est la grande détermination qui est en nous. La différence qu'il y a entre nous et l'animal, qui a peut-être un corps très semblable au nôtre. C'est vrai. Il peut y avoir des ressemblances. C'est que la grande différence, c'est qu'en nous, nous avons une âme. Chacun d'entre nous. Et nous savons très bien que le petit enfant, il a une âme. Et que cette âme se développe. L'enfant apprend à marcher, apprend à parler, à se communiquer aux autres. C'est son âme. Un animal, il marche spontanément, beaucoup plus vite que l'homme. Regardez un petit veau, comme ça, comme c'est gentil. Comme ça marche tout de suite. Instinctivement. Mais il ne parle pas. Vous pouvez lui parler. Vous croyez qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'un veau comprend? Il s'habitue à votre parole, au son de votre parole. Pas à ce que vous dites, mais au son de votre parole. Et il reconnaît le son de la parole de celui qui est tout proche de lui, de celui qui est étranger. L'audition. Mais il n'arrive pas à discerner. Mon âme est une âme spirituelle qui me donne une certaine autonomie. L'autonomie de la personne se fonde sur l'âme. C'est pour ça que c'est capital. Vous ne pouvez pas connaître ce qu'est la personne humaine si vous ne connaissez pas son âme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme si facilement on oublie l'âme, on ne regarde que les manifestations, les choses visibles, extérieures. On regarde avant tout l'individu. L'individu, c'est premièrement son corps. Je suis un individu par mon corps. Et je me distingue des autres par mon corps. C'est l'individu. Et la communauté, c'est l'ensemble des individus. Vous voyez, même le sens politique disparaît. C'est une chose extrêmement nette, ça. Donc, on voit, je dirais, que l'âme humaine se développe de moins en moins. Il y a une régression. Certains, ça se développe magnifiquement du côté mathématique, du côté scientifique. Ils ont une intelligence toute faite pour le point de vue de la science. Mais ils ne réfléchissent pas sur eux-mêmes. Or, c'est la grande devise grecque. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Je connais des grands mathématiciens qui ne se connaissent absolument pas. Ils sont pris par les mathématiques. Les mathématiques ne me permettent pas de me connaître. Ils voient que je suis quelqu'un de bien organisé, qui arrive à bien s'ordonner dans la vie. Bien calculé, mais l'âme. Vous voyez, l'âme, elle a une finalité. Voilà la grande différence entre l'individu et la personne. Si la personne s'enracine dans l'âme, premier élément de la personne, c'est l'âme. C'est pas l'individu. C'est pas parce que vous pesez 120 kilos que vous êtes une personne. Ça prend de la place, tout simplement. En avion, ça se voit. Parce que il prend beaucoup de place. l'âme, c'est la finalité. Ça, on verra ce que c'est. Mais l'âme, on est orienté vers quelque chose qui va nous permettre de nous développer. Notre âme, elle est toujours la même, hein, depuis le petit enfant, puisque maintenant, la seule différence, c'est que j'ai conscience de vivre, j'ai conscience d'aimer, j'ai conscience de connaître, j'ai conscience de vous faire un cours de philosophie sur l'âme. Tandis que l'enfant n'a pas conscience de ça. Donc l'âme se développe. Elle se développe progressivement. Et faire de la philosophie développe directement mon âme par mon intelligence. Parce que mon âme est toujours la même. Elle est indivisible. Pourquoi ? Parce que elle n'a pas de corps. C'est la dualité, l'âme et le corps. Mon âme anime mon corps. Mon âme anime mon corps de telle façon que mon âme donne à mon corps sa finalité. Mon corps n'a pas d'autre sens que d'être au service de mon âme. Ah tiens. Voilà qui est très important au point de vue de la finalité, au point de vue de la personne. Mon âme me donne le sens de ma finalité, ce pourquoi je vis. C'est pas votre corps qui vous donne le sens de votre finalité. Si vous réfléchissez pourquoi je vis, qu'est-ce que je fais dans cette vie? Je vis, mais pourquoi? Quel but? C'est mon âme, par mon intelligence, par ma volonté, c'est mon âme qui détermine le but de ma vie. Et philosophiquement, le grand problème, ce sera tout de suite là. Pourquoi l'homme existe-t-il? Pourquoi j'existe? Est-ce que j'existe pour engraisser mon corps, faire que mon corps se porte bien, ou est-ce que j'existe pour penser, aimer? Le développement de mon âme se fait dans cette direction. Ce n'est pas la direction de mon corps, mais mon corps, nous le verrons, conditionne toute ma vie. Si je suis malade, ça devient difficile à faire de la philosophie. Si je suis très malade, c'est difficile de penser. Mon corps, lorsque je digère, lorsque je suis fatigué, mon corps m'empêche de penser. Mon corps peut m'empêcher d'aimer relation avec quelqu'un. C'est très curieux. Comme mon âme développe en moi cette autonomie. Je suis distinct des autres. Je peux entrer en union avec les autres, les connaître, les aimer. Je peux créer des relations. C'est mon âme qui fait ça. Radicalement, c'est mon âme. Et mon âme me donne cette très grande autonomie et en même temps cette très grande possibilité de communiquer avec les autres. C'est très important de découvrir en soi, connais-toi toi-même, de découvrir en soi notre âme. C'est important, puisque c'est par là que nous distinguons des autres et que nous pouvons être unis à eux. Il y a en nous une source radicale d'autonomie, de développement, de grandir. Et tant que notre corps n'a pas sa dimension et sa grandeur et son poids, notre corps grandit. Mais notre corps ne grandit pas tout le temps. C'est curieux que votre corps ne grandit pas tout le temps. Vous savez que ça arrive chez certaines personnes. Hein. Je connais des personnes très grandes, 2 mètres, et ça grandissait toujours. Il avait 18 ans, ça grandissait toujours. Alors ils ont été voir le médecin pour ne plus grandir. C'est curieux. Pour vous, le problème ne s'est pas posé. Vous n'avez pas envie de grandir tout le temps. Et vous êtes arrivé à une taille humaine. On ne grandit plus. Et votre âme grandit. Oh, c'est curieux. Ce dualisme que nous portons en nous, qui nous montre qu'il y a en nous 2 principes. De vie, un principe accidentel, notre corps, qui prenait accidentel, substantiel aussi, hein, mais second, disons substantiel, et second, notre corps, et puis notre âme. Notre âme n'a pas d'âge, notre âme n'a pas de taille, notre âme est spirituelle. Nous avons la possibilité de dépasser tout ce monde physique, tout ce monde corporel, de le dépasser tout en étant dépendant de lui. Ce monde corporel, il est mien. Et je le dépasse. Mon âme peut très bien se développer dans une certaine autonomie vis-à-vis de son corps. Mais certaine autonomie, et à certains moments, le corps prend beaucoup plus d'importance. Quand votre corps est fatigué, quand il est malade, il prend beaucoup d'importance. Vous êtes obligé de vous coucher. Ce qui n'est pas normal. C'est curieux comme notre corps peut être à la fois un allié merveilleux et quelqu'un qui ralentit tout. Donc, en nous-mêmes, nous avons cette dualité qui se résorbe dans l'unité. C'est vrai, il y a une unité entre notre corps et notre âme, unité substantielle. Et en même temps, notre âme a quelque chose de plus. Elle est capable de dominer notre corps, d'avoir sa propre vie. Et elle est capable aussi de respecter la vie du corps. Toute l'éducation, c'est vis-à-vis du corps et vis-à-vis de l'âme. Le corps, c'est un dressage. L'âme, c'est une éducation. Et quelquefois, le dressage l'emporte sur l'éducation. On oublie l'âme. Alors, dans la mesure où on oublie l'âme, on ne fera plus qu'une seule chose, de dresser des chiens. Le dressage. Il faut comprendre ça. Il y a en nous notre âme qui demande de se développer, mais qui demande de se développer dans une spontanéité et dans une certaine obéissance à tout problème de l'éducation. L'équilibre entre les deux. Le tout gosse a sur besoin d'obéir. Quand l'âme grandit, quand notre personnalité grandit, nous avons une indépendance beaucoup plus grande. Et cette indépendance se traduit dans une espèce de liberté, dans une orientation capable de tout orienté vers telle fin, ayant en nous aussi le dressage du corps. On éduque notre corps, on le dresse. Quand le corps prend le dessus sur l'âme, l'éducation ne devient plus qu'un dressage. C'est très curieux. Toujours voir ce dualisme âme et corps. Et cette unité, mon corps est complètement transformé par mon âme. Mon âme l'informe. Elle est présente. Elle lui donne vie. Et c'est vrai. D'accompagnement de mon corps et de mon âme. Et pour chacun d'entre nous, l'équilibre de notre âme et notre corps est différent. Vous voyez tout de suite, hein, on voit que la personnalité de chacun d'entre nous dépend radicalement du respect qu'on a vis-à-vis de notre âme. Qui nous donne à chacun d'entre nous cette espèce d'autonomie, l'autonomie personnelle, qui est le fond de notre caractère. On peut orienter sa vie de diverses façons. Et nous le faisons bien plus que l'animal, hein. Les animaux n'orientent pas leur vie, ils sont déterminés. Tandis que j'oriente ma vie de diverses façons. Et ces diverses façons font que l'orientation de ma vie est très différente. Et ça, c'est parce que radicalement en moi et en mon âme, j'ai cette autonomie.